RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans un quart d'heure et cap à nouveau sur la bande de Gaza. Alors que cette semaine, la prise de contrôle des distributions d'aide humanitaire par une société privée américaine sous contrôle israélien a viré au chaos. De longues files d'attente en plein soleil, des colis bien maigres parfois pillés, des personnes tuées ou blessées par les balles israéliennes. C'est ce que nous racontent les Gazaouis qui demandent le retour des ONG ce matin. Reportage de Rami El-Megari et Alice Froussard à 7h, temps universel. Dans le prochain journal, on part également en Pologne. Le second tour de la présidentielle dans 2 jours, c'est notre dossier en direct de Varsovie avec notre envoyée spéciale Anastasia Becchio. À suivre d'ici là notamment notre grand invité Afrique Bonaventure Bondo de Greenpeace Afrique pour évoquer le premier congrès des peuples autochtones et des populations locales des bassins forestiers qui s'est tenu cette semaine à Brazzaville. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Un Mauritanien à la une et à la tête de la BAD.
Oui, la Banque africaine de développement qui, après 10 ans sous la houlette du Nigérian Akinwumi Adesina, sera pour les 5 années à venir dirigée par Sidi Ould Ta. 3 heures seulement ont suffi, s'étonne Sahara Media à les lire. Réaction partagée par Le Monde Afrique, étonné que le dernier candidat à être sorti du bois ait finalement coiffé tous ses adversaires au poteau, et ce, en 3 tours seulement. Il faut dire que le parcours de Sidi Ould Ta lui a taillé un costume sur mesure. Docteur en économie, formé entre Nouakchott et la France, rappelle Le Point Afrique, passé par la Banque Mauritanienne pour le développement et le commerce, il a surtout dirigé la Banque Arabe pour le développement économique en Afrique pendant 10 ans. Et sous sa direction, pointe le Faso, l'institution a financé des ports, des aéroports, participé à la construction de plus de 200 routes, tout en générant une baisse des coûts de transport.
Et puis Sidi Ould Ta a bénéficié d'un coup de pouce des dirigeants mauritaniens.
Sahara Media raconte que pendant le vote, le président Mohamed Ould Razouani passait plusieurs appels qui, croient savoir le titre, ont joué un rôle décisif pour changer la donne. Parmi ces contacts cruciaux, on peut compter le Nigeria qui a changé de position de manière soudaine et donc décisive. Et le résultat est là, plus de 76% des voix contre un peu plus de 58% à l'époque pour Akinwumi Adesina. Mais attention, prévient Waka Tsera, il faut voir dans ce score élevé non pas un blanc-seing, mais une interpellation à la tâche.
Car sa présidence s'annonce comme celle de tous les défis.
Et sur ce point, les journaux sont unanimes. D'abord, Sidi Ould Ta va devoir faire avec l'héritage de son prédécesseur. Akinwumi Adesina a, souligne Le Pays, réalisé la plus importante augmentation de capital de l'histoire de la BAD, puisque ce dernier a plus que triplé en 10 ans. Plutôt donc que de s'affranchir de ce passé, le nouveau patron de la banque compte, analyse Le Monde, s'inscrire dans la continuité des grandes priorités définies par son prédécesseur, ce qu'on appelait les high five, électrification, accès à la nourriture, industrialisation, intégration et amélioration de la qualité de vie. Autant de points sur lesquels les défis restent immenses selon Le Quotidien.
D'autant que l'environnement économique a changé.
Mais par rapport à 2010, la part que les pays africains consacrent à leur dette a connu une hausse de 167%. Et puis, il y a les États-Unis et leur désengagement progressif des mécanismes d'aide au développement, soit des centaines de millions de dollars en moins. Heureusement, se souvient Le Point Afrique, Sidi Ould Ta dispose de relations de marque avec certains pays du Golfe qui pourraient l'aider à attirer de nouveaux capitaux. Il a de toute façon quelques mois pour y penser. Sa prise de fonction est prévue le 1er septembre. Voilà qui devrait lui laisser le temps, conclut Waka Tsera, de souffler un coup en attendant de donner un nouveau souffle à la BAD.
À la une également ce matin, Léa, une nouvelle boisson au cœur de toutes les inquiétudes en Côte d'Ivoire.
Ça s'appelle la Vodi et ne vous laissez pas avoir par sa canette au format aussi petit que ses couleurs sont éclatantes. 250 ml de cette boisson contiennent de la caféine, de la taurine, beaucoup de sucre et 18 à 22% de vodka. Voilà pour la recette décortiquée par Le Monde Afrique. Et ça marche. Depuis son arrivée à Abidjan au milieu des années 2010, retrace Le Quotidien, la Vodi est devenue la boisson fétiche des rappeurs ivoiriens qui la popularise auprès des jeunes. C'est vrai, le gouvernement ivoirien a tenté en 2023 de mettre un frein au phénomène en interdisant l'importation de boissons énergisantes alcoolisées. Conclusion, raconte Le Monde, eh bien les fabricants ont tout simplement changé la recette de leur canette sur le marché local en retirant les composantes énergisantes. Le taux d'alcool, lui, est le même. Or, raconte un adolescent, le but premier a toujours été de se saouler, et ce à moindre coût. Une canette coûte entre 500 et 700 francs CFA, soit entre 75 centimes et 1 euro. À ce prix-là, balaye l'étudiant, si on veut l'effet énergisant, on peut se faire son cocktail soi-même.
Merci Léa Boutin-Rivière, vous revenez dans une demi-heure pour la revue de presse internationale où il sera question de droits de douane. À tout à l'heure. Ce sont les écosystèmes forestiers les plus vitaux de la planète qui représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales du monde et 2/3 de la biodiversité terrestre. Leur population veut se faire entendre et se réunit jusqu'à aujourd'hui à Brazzaville, la capitale congolaise qui accueille depuis lundi le tout premier congrès des peuples autochtones et des populations locales des bassins forestiers. Les dirigeants autochtones, représentants de communautés et défenseurs de l'environnement présents veulent parvenir à une déclaration commune en amont de la COP30 prévue à Belém, au Brésil, en novembre. On en parle ce matin avec notre grand invité Afrique, Bonaventure Bondo, chargé de campagne forêt pour le bassin du Congo à Greenpeace Afrique. Il nous répond au téléphone d'Alexandra Branjon.
Bonaventure Bondo, bonjour.
Bonjour madame.
Le premier congrès des peuples autochtones issus des trois grands bassins forestiers de la planète, c'est-à-dire Amazon, Bornéo, Mékong et bassin du Congo, s'est ouvert cette semaine à Brazzaville. Alors quand on parle des populations autochtones du bassin du Congo, de qui s'agit-il exactement?
Ce terme renvoie d'emblée aux communautés pygmées, même si le mot pygmée est en train de disparaître, qui vivent dans la forêt ou qui développent le lien étroit avec les forêts tropicales.
Dans quel pays?
Et ces communautés sont réparties dans presque tous les pays du bassin du Congo. En RDC, nous avons les Tua et les Aka. De même pour la République du Congo, Cameroun, nous avons les Baka qui s'étendent aussi au niveau du Cameroun et de la Guinée équatoriale.
Alors ces populations, qu'elles soient de la RDC, de Centrafrique, partagent les mêmes problématiques entre la reconnaissance de leurs terres ancestrales.
Oui, ils font face aux mêmes défis, surtout liés à la reconnaissance de leurs terroirs ancestraux, parce qu'ils sont les premiers habitants, ils sont les détenteurs de ces forêts sur les plans traditionnels. Et avec l'expansion du développement axé sur les néocolonialismes dans le bassin du Congo, notamment l'exploitation industrielle du bois, le développement de l'agriculture industrielle aussi, avec la plantation de palmiers à huile, ces communautés ont été plusieurs fois exposées à certains abus liés à la violation de leurs droits, à l'accaparement de leurs terres. Et dès lors, ils ont commencé à relever cette nécessité pour eux d'être reconnus, d'avoir une reconnaissance légale sur leurs terres et d'avoir une reconnaissance aussi légale à gérer leurs terres comme ils le font toujours depuis des années. Le premier pays à prendre cette décision a été le Congo-Brazzaville et ensuite la République démocratique du Congo avec sa loi à 22 sur la promotion et la protection des peuples autochtones pygmées. Il y a un peu d'avancée, mais il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions arriver à sécuriser légalement les terroirs des communautés locales partout dans le bassin du Congo.
Concrètement, quelles sont leurs revendications?
Ils revendiquent la reconnaissance de leurs terres, leur prise en compte dans le processus des décisions parce qu'ils sont pour la plupart et toujours mis de côté lorsqu'il faut décider sur l'avenir de leurs terres. Ce sont les projets d'exploitation du pétrole, d'exploitation des mines, d'exploitation du bois. Ils sont souvent mis de côté. Ils revendiquent aussi être associés, prendre part aux instances de prise de décision dans la gouvernance des ressources naturelles sur leurs terres.
Alors, la ministre congolaise de l'économie forestière a regretté que moins d'1% des financements disponibles ne leur parviennent et que malgré leur expertise, ils sont peu impliqués dans les programmes de développement durable. Pourquoi est-ce que c'est le cas?
Le fait qu'ils sont toujours mis de côté se justifie par le fait qu'ils n'ont pas des capacités nécessaires, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de compétences. Et ce qui est vraiment faux, et c'est que les communautés sont en train de revendiquer maintenant pour dire qu'ils ont aussi, dans leur façon de faire les choses, grâce au savoir traditionnel et connaissances endogènes, des initiatives très, 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 très promettrices, les initiatives très louables qu'ils mettent en œuvre pour protéger les forêts. Et ces initiatives ou ces efforts doivent effectivement être reconnus à leur juste valeur pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette confiance. Il y a d'abord un problème de confiance dans la distribution des fonds. Il faut que les communautés autochtones aujourd'hui puissent être reconnues capables de bien gérer ces fonds et de bien continuer à développer leurs initiatives. Et c'est vraiment la question qui est au cœur du débat pour voir comment est-ce que dans tous les mécanismes financiers qui existent, qu'il y ait une part allouée directement aux communautés locales.
Alors justement, votre organisation Greenpeace a mis sur pied un projet Forest Solution, donc pour voir comment rehausser le travail de ces communautés dans la préservation des forêts.
l'objectif, effectivement, c'est promouvoir les initiatives locales dans la protection de nos forêts, mais non seulement le promouvoir, mais aussi pousser en sorte que les communautés locales puissent avoir accès aux connaissances, aux informations et à un partage d'expériences entre les autres peuples autochtones des autres bassins tropicaux qui sont, selon les constats, beaucoup plus avancés. Et à travers ces projets, nous voulons vraiment faire en sorte que ces communautés soient connectées, puissent partager l'expérience pour construire des recommandations fortes et communes pour faire bouger les lignes dans les instances décisionnelles au niveau national, régional et international.
Quand vous dites ce sont les premiers gardiens des forêts qu'ils protègent depuis des générations, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret ?
L'expertise aujourd'hui qui est louable, c'est la foresterie communautaire que nous sommes en train de cibler comme l'une des solutions aux forêts. Dans ce processus, les communautés ont droit à avoir des titres de concession sur leurs forêts et aussi ont droit de développer des activités à caractère économique, donc dans leurs concessions. Ils exploitent leurs concessions à leur manière, de façon durable, pour à la fois protéger les forêts, conserver la biodiversité et aussi améliorer leurs conditions de vie socio-économiques.
Donc exploiter tout en protégeant. Bonaventure Bondo, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Bonaventure Bondo, chargé de campagne forêt pour le bassin du Congo à Greenpeace Afrique, invité à RFI de Alexandra Branjon. Bientôt 7h en temps universel et bientôt l'heure d'un nouveau journal sur RFI. D'abord, votre sourire du vendredi, c'est la parlotte de Charlotte avec vous, Charlotte Ntamack. Vous nous dites aujourd'hui qu'il existe plus complexe que les équations mathématiques, à savoir les équations téléphoniques.
Oui, lorsque le téléphone sonne et que s'affiche un numéro qu'on ne connaît ou ne reconnaît pas, on est face à son afficheur comme un élève qui, face à sa copie, doit résoudre une équation mathématique. Si pour l'élève, il est plus facile de résoudre une équation du genre 9x plus 5 est égal à 2x moins 7, on a beau se remuer les méninges, difficile de déterminer qui est ce x qui se cache derrière cet appelant inconnu. En refusant de décrocher un numéro parce que inconnu, on fuit un x inconnu tout en se demandant si derrière ce X au bout du fil, on ne passe pas à côté de l'appel qui allait changer notre journée ou même notre vie.
Man, c'est peut-être la Gaudière là qui m'appelle avec un autre numéro, hein. Elle met sur son profil une photo où elle avait 20 ans. Le jour du rendez-vous, je tombe sur une femme qui pouvait m'accoucher. Je ne suis plus chaud. Mais je peux aussi faire comme ça, je ne décroche pas. C'est Billy qui veut nous donner une bière, hein. Comme il change de numéro tout le temps là.
Mako, je ne connais pas le numéro si. Je décroche.
Mako, décroche. C'est peut-être un appel d'argent.
Et si c'est sa femme, Mako?
Mako, quand tu décroches, est-ce que tu parles directement? Tu attends d'abord que la personne dise allô.
Si tu entends la voix d'une femme, tu raccroches.
On en vient à regretter l'ère téléphonique de nos parents et grands-parents avec leur téléphone à l'ancienne où l'appelant commençait par se présenter sans attendre que ce soit le téléphone qui vous présente par nom affiché comme c'est le cas aujourd'hui. L'équation téléphonique est un véritable casse-tête quand l'appelant inconnu vous connaît, c'est-à-dire vous appelle sur un ton familier par votre nom et entame la conversation tout de go, persuadé que vous avez son numéro et son nom dans votre répertoire. Un inconnu fait intrusion dans votre vie téléphonique et au lieu de vous dire ce qu'il emmène dans votre téléphone, vous pose des devinettes.
Allô, c'est comment alors? Tu es où comme ça? Pourquoi tu parles un genre là? C'est comme si tu ne sais pas qui t'appelle, hein? C'est ton bon grand. Tu as combien de grands? Donc tu ne reconnais plus ma voix. Tu n'as plus mon numéro, hein?
Par peur de frustrer la personne, vous la laissez se dévoiler. Mais vous avez beau revoir toutes vos formules téléphoniques, impossible de résoudre l'équation. Et lorsque vous posez la question qui fâche, c'est qui? Voilà l'énigme résolue et vous voilà obligé d'inventer un mensonge de téléphone volé ou changé et de répertoire perdu pour justifier pourquoi vous n'avez pas pu résoudre une si facile équation téléphonique. À vendredi.
À vendredi, Charlotte. Et merci. Sur RFI, il est bientôt 7h en temps universel, bientôt 9h à Paris. Et le journal, c'est dans 2 minutes. À tout de suite.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, résultat de lourds investissements des propriétaires qatariens. Mais à quel prix et pour quel bénéfice? Quels sont les projets économiques du club que lui rapporterait un titre européen? On en parle avec l'économiste Jean-Pascal Gaillan.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Du 19 au 21 juin, le festival Gnawa et Musique du Monde revient à Essaouira plus vivant et plus intense que jamais. Trois jours de fêtes, de transes et de rencontres exceptionnelles. Plus de 30 madeleines seront entourées d'artistes venus des quatre coins de la planète. Sima Funk, Abera Labed, Rokia Kone, Dafer Youssef, Sike, Marcus Gilmore et bien d'autres. À Essaouira, les frontières tombent, les cœurs s'accordent et la musique unit. Rejoignez-nous du 19 au 21 juin 2025 pour un festival pas comme les autres. Plus d'informations sur festival-gnawa.net.
En partenariat avec RFI.
Religion du monde. Véronique Guémard.
Qu'est-ce que le jainisme ? Une religion, une philosophie née en Inde il y a plus de 2500 ans qui ne reconnaît pas de dieu créateur et dont le modèle est la parfaite conscience humaine, l'incarnation de l'ascétisme. Les adeptes sont les jains et leur modèle, la non-violence et le respect de tout être vivant.
Religion du monde avec Véronique Guémard.
Dimanche à partir de 10h10 TU.
RFI. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Moed Altrad, fondateur du groupe Altrad et président du Montpellier Hero Rugby. Dans Le désert en partage, il raconte son histoire, celle de ce Badawi, ce bédouin syrien né pauvre, abandonné, paria, et devenu l'une des plus grandes fortunes françaises.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 TU et en podcast sur RFI.fr.